Place Info.
Les débats de l'écho. Emmanuel Cuny.
Bonsoir à tous, bienvenue dans les débats de l'écho sur France Info en partenariat avec le Cercle des économistes et avec nous ce soir Agnès Benassi-Quéré, membre du Cercle des économistes, professeur à l'École d'économie de Paris, et Marc-Olivier Padis, directeur des études du groupe de réflexion Terra Nova. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être en ligne avec nous. L'État apportera les moyens financiers nécessaires aussi longtemps que la crise durera pour éviter un naufrage de l'économie lié à l'épidémie de coronavirus. Déclaration du ministre de l'économie et des finances dans un entretien au Journal du Dimanche aujourd'hui. L'intervention de Bruno Le Maire intervient à l'issue d'une semaine pendant laquelle les milliards d'euros ont coulé à flot de Paris à Bruxelles. Et ce n'est pas terminé, loin s'en faut. D'où la question posée ce soir, comment soigner et sauver l'Europe et à quel prix économique et politique? Marc-Olivier Padis, au niveau français, on va revenir sur le niveau européen. Bruno Le Maire dit « Je préfère que nous nous endettions aujourd'hui en évitant un naufrage plutôt que laisser détruire des pans entiers de notre économie ». En gros, on ouvre les vannes sans savoir quand on va les refermer. Comment l'économiste reçoit ce positionnement politique ?
Ce qu'il faut protéger absolument, c'est la capacité de rebond de l'économie française. Et donc, si l'appareil productif français est trop endommagé par cette crise, de toute façon, on ne pourra jamais rembourser nos dettes. Donc, ce qu'il faut absolument, c'est préserver au maximum notre capacité à produire de la richesse. Et puis, on va reconstituer assez vite. Si cette crise ne dure pas trop longtemps, on pourra assez facilement rembourser nos dettes.
Alors, y a-t-il des limites budgétaires, Agnès Benassi-Quéré, des limites budgétaires pour la France avant que l'Europe ne soit obligée de prendre le relais ?
Alors, l'Europe ne va pas prendre véritablement le relais. Ce qui se passe, c'est que la France peut s'endetter à encore des taux d'intérêt très bas sur les marchés. Dans la mesure où la crise, même si elle est beaucoup trop longue pour nous, elle est quand même limitée dans le temps. Donc, dans la mesure où elle serait limitée dans le temps, même un déficit très important ne remet pas en cause la signature française, parce que ce qui compte avant tout, c'est sur de longues périodes, qu'est-ce qui se passe sur les finances publiques.
Quand vous dites, Agnès Benassi-Quéré, la signature française, ça veut dire la confiance qu'ont les marchés financiers dans la dette française, donc pour acheter de la dette française.
Absolument. Et en fait, cette confiance est évidemment renforcée par l'action de la Banque Centrale Européenne qui a annoncé un méga programme d'achat de dette publique. Et donc, elle va participer, si vous voulez, au marché pour animer cette demande de dette française. Donc, sur les mois qui viennent, il n'y a pas d'inquiétude majeure. On peut pas dire la même chose de tous les pays européens, mais on va y revenir.
Oui. Alors, remboursement de la dette, Marc-Olivier Padis, on est actuellement à taux zéro pour rembourser notre dette. Comment ça va se passer si jamais les taux remontent?
Ah oui, alors ça c'est l'inconnu, c'est la difficulté, c'est que si les taux remontaient, ça alourdirait évidemment le remboursement de la dette. C'est pas l'hypothèse nécessairement la plus probable. En tout cas, en ce qui concerne la France, le risque, ce serait plutôt qu'il y ait des écarts entre pays européens. Mais on peut aussi remettre en question la dette. La Banque Centrale Européenne pourrait aussi, jusqu'à présent, l'Europe en tant qu'entité ne s'endette pas. Et donc, ça reste quand même une option de réserve qui est difficile à faire passer auprès de certains de nos partenaires, notamment nordiques, notamment l'Allemagne et les Pays-Bas. Mais enfin, ça, si la situation devenait vraiment intenable, ça reste quand même une idée qui est sur la table.
Alors, il y a deux leviers d'action au niveau européen, le levier monétaire dont on vient de parler et le levier politique. Le levier monétaire, c'est du ressort de la BCE, la Banque Centrale Européenne. À quoi sert précisément la Banque Centrale Européenne aujourd'hui, Agnès Benassi-Quéré?
Alors, la Banque Centrale Européenne est la banque des banques. Donc, c'est la banque qui va prêter à nos banques commerciales qui, elles, nous prêtent et prêtent à nos entreprises. Donc, elle a un rôle complètement clé à assurer que les banques dans tous les pays de la zone euro sont capables de continuer à prêter aux PME, c'est-à-dire qu'elles ont la liquidité qu'il faut pour leur prêter. Donc c'est ça le rôle de la Banque Centrale Européenne. Alors elle a une mission aussi qui est d'assurer la stabilité des prix et d'assurer l'intégrité de la zone euro. Donc ces dernières semaines, elle était très active, à la fois sur le front des banques pour maintenir leur liquidité et donc qu'elles soient toujours capables d'assurer cette période extrêmement difficile pour les entreprises et notamment les PME. Et elle est intervenue aussi massivement pour rassurer les États de manière à ce que, il n'y ait pas d'éclatement, si vous voulez, en vue de la zone euro.
Donc mais ça veut dire que la Banque Centrale Européenne prête de l'argent à des taux intéressants aux banques commerciales, qu'on peut citer, hein, les grandes banques commerciales, c'est quoi, BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, etc. Donc elle leur prête de l'argent gratuitement, on va dire, pour que ce soit injecté dans le crédit, donc dans l'économie réelle.
Ah oui, alors même, en fait, les banques ont intérêt à prêter aux PME maintenant en faisant appel à la Banque Centrale, c'est-à-dire un appel refinancement, parce qu'elles gagnent une petite marge entre les deux, c'est-à-dire qu'elles empruntent à la Banque Centrale à un taux d'intérêt qui est plus bas que le taux où elles vont reprêter.
C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne ne se fait pas d'argent, pour parler clairement, sur les liquidités qu'elle prête aux banques commerciales.
Voilà, au contraire, alors c'est très difficile à comprendre parce que tout ça c'est des taux d'intérêt négatifs, mais oui, elle perd de l'argent, elle a décidé volontairement de perdre un petit peu d'argent sur ses prêts qu'elle fait.
Oui, ce qui casse l'image, généralement on dit la BCE s'en met plein les poches en faisant cela, mais en fait c'est pas le cas du tout. Marc-Olivier Padis, jusqu'où va-t-on pouvoir faire tourner ainsi la planche à billets? Est-ce que la planche à billets, on peut la faire tourner comme ça sans limite?
Il y a toujours un risque, c'est de relancer de l'inflation si on crée trop de monnaie. Mais en fait, les facteurs déflationnistes, c'est-à-dire ceux qui vont dans l'autre sens aujourd'hui, sont très très forts aussi, structurels, avec un effondrement du coût de l'énergie, par exemple. Donc on ne voit pas bien aujourd'hui un risque d'inflation très très fort.
Le problème de l'inflation, quel est-il, Agnès Benassi-Kéré? On dit que généralement il faut un peu d'inflation parce que ça, quand les prix sont trop bas, les entreprises ne gagnent pas assez d'argent, donc pour payer les salaires c'est un peu compliqué. Et il faut donc un niveau minimum d'inflation qui est aux alentours de 2%. On en est loin aujourd'hui.
Oui, bon alors l'objectif de la BCE c'est effectivement 2%. Personne n'est capable de dire encore si en sortant de cette crise, on aura plus d'inflation ou moins d'inflation. Les deux arguments se valent aujourd'hui. Ce qui est très important, c'est que la Banque Centrale Européenne rachète toutes ces dettes publiques parce qu'il y en a vraiment trop. Il y en aura vraiment trop. Et en fait, son rôle, ça va être d'allonger les horizons des États. C'est-à-dire que les États vont pouvoir emprunter à long terme. Et si la BCE rachète ces dettes, ça permet de d'étaler dans le temps le coût.
On y revient dans un instant. Nous nous retrouvons dans un instant.
Les débats de l'écho. Emmanuel Cuny.
Deuxième partie des débats de l'écho sur France Info en partenariat avec le Cercle des économistes et nos deux invités ce soir, Agnès Benassi-Kéré, membre du Cercle des économistes, professeur à l'École d'économie de Paris, et Marc-Olivier Padis, directeur des études du groupe de réflexion Terra Nova. Covid-19, comment soigner et sauver l'Europe et à quel prix économique et politique? C'est donc la question posée ce soir. Agnès Benassi-Kéré, les ministres des Finances européens se réunissent mardi. Alors en audioconférence, bien sûr, pour tenter de s'entendre sur les propositions communes face à la pandémie de Covid-19, on parle de mise en place des Corona Bonds. Les Corona Bonds, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors l'idée du Corona Bond, c'est l'idée que temporairement, les États européens se mettraient ensemble pour emprunter ensemble sur les marchés au lieu d'emprunter un par un. Donc ce qui permet aux États les plus faibles d'emprunter aux mêmes conditions que les États les plus forts. Et ce qui permet aussi d'avoir, pour la Banque Centrale Européenne, la possibilité d'acheter des obligations qui ne soient pas des obligations de tel ou tel pays, mais des obligations communes, qui est beaucoup plus confortable et qui rapproche la Banque Centrale Européenne d'une banque centrale classique comme la Réserve fédérale américaine, donc la Banque Centrale des États-Unis, ou la Banque d'Angleterre. Et donc ça, c'est très particulièrement stabilisant pour le financement de la crise.
Alors, on va voir que tout le monde n'est pas d'accord au sein de l'Europe, hein, autour de ces coronabonds, mais Marc-Olivier Padis, cette mutualisation de dettes en Europe, c'est-à-dire tout regrouper les dettes de tous les États européens, est-ce que ça vous semble, vous, aux yeux d'économistes, une solution intéressante?
Alors, c'est-à-dire que là, il s'agirait uniquement d'agir sur la nouvelle dette créée par la situation exceptionnelle due au virus. Donc, en tout cas, ce que j'ai vu des projets de coronabonds, c'est pour créer de la nouvelle dette. L'avantage de ne créer que de la nouvelle dette, c'est que ça répondrait à l'argument du manque de discipline, en fait, qu'une certaine partie des pays, notamment donc l'Allemagne et les Pays-Bas, avaient adressé au moment de la crise de 2008 vis-à-vis des pays du sud de l'Europe en disant bah, « vous êtes endettés, mais c'est parce que vous avez manqué de discipline ». Là, c'est pas le cas, c'est parce qu'on est tous confrontés à une situation exceptionnelle à laquelle il faut qu'on fasse face ensemble, justement. Il y a des entreprises à soutenir, il y a des salaires à verser pour les personnes qui sont en activité partielle, et puis il va y avoir des actions stratégiques à prendre, des relocalisations d'activités, du soutien à l'investissement pour un certain nombre de domaines où on a vu qu'on était complètement à découvert.
Oui, alors vous le dites bien, Marc-Olivier Padis, les pays du nord de l'Europe, donc Allemagne et Pays-Bas notamment, qui maîtrisent leur budget, ne veulent pas payer pour les pays du sud, qui sont jugés trop dépensiers. On peut penser notamment à l'Italie, en tout cas présentée comme telle. Agnès Benassi-Kéré, jusqu'à quand ce petit jeu va pouvoir durer?
Alors, les choses évoluent très lentement, les prises de confiance. Et vous voyez, il y a deux objectifs différents. Il y en a un premier commence à être plutôt consensuel, c'est qu'il faut aider les États à s'endetter à long terme. Et donc, on a des instruments qui existent déjà, comme le mécanisme européen de stabilité, qui peut éventuellement, adapter ces instruments de manière à offrir aux États une ligne de crédit à très long terme, à 30 ans. Et ça, ce serait, soi-disant, au sens où ça repousserait dans le temps l'idée de rembourser. Ce qui ferait surtout éviter, c'est qu'en sortir de crise, eh bien, les États soient acculés à monter drastiquement les impôts, et ça tuerait la reprise économique.
Mais le mot solidarité, c'est une réalité aujourd'hui entre les pays membres face à la crise?
Donc, ce premier dispositif n'est pas véritablement une solidarité au sens d'une mutualisation des coûts. Donc, il y a un deuxième sujet, qui est le fait que la crise actuelle touche de manière éventuellement différente, avec une intensité différente, les différents pays européens. On ne sait pas encore, hein, la crise est en train de se dérouler, mais il n'est pas impossible que certains États soient moins touchés que d'autres.
Alors justement, Marc-Olivier Padis, est-ce qu'il faut créer ces corobonds dès maintenant ou attendre plutôt la reprise? Parce qu'on sait qu'il y a un moment où les moyens seront plus utiles. La reprise ne se fera pas du jour au lendemain, aussi rapidement que s'est faite la chute de l'économie. L'économie aura besoin de plus de soutien demain qu'aujourd'hui, finalement, d'où la création peut-être de ces coronabonds, plus tard?
Oui, éventuellement. C'est-à-dire, il y a des fonds qui sont mobilisés dans l'urgence, c'est-à-dire effectivement les prêts garantis par l'État pour les entreprises qui auraient des problèmes de financement, le chômage partiel pour les salariés. Il y a des fonds de solidarité, il y a de l'argent qui est versé directement à des petites entreprises. Et puis après, il y aura effectivement la sortie. Et il y aura beaucoup de dépenses aussi pour la sortie, surtout si on a pris conscience du fait que, par exemple, on n'était plus capable de fabriquer un certain nombre de médicaments en Europe, donc on veut relancer des projets de cette nature-là. Mais de toute façon,
tous les pays ne repartiront pas en même temps. Il y aura une certaine asymétrie dans la reprise.
En fait, il y a une asymétrie de la crise, c'est-à-dire que tous les pays n'ont pas été frappés en même temps. Cette crise, c'est une vague qui déferle sur l'Europe. L'Italie a été touchée plus tôt que nous. Il y a des pays qui vont être touchés plus tard, et ils vont pas tous être touchés avec la même intensité non plus. Et donc, on ne sera pas tous dans la même situation au moment de la relance.
Agnès Benassi-Kéré, est-ce que les principaux pilotes de l'Europe aujourd'hui font le travail correctement? La présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, se met à dos l'Italie pour des questions de taux d'intérêt. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, affirme que les mesures d'urgence décidées par les États membres doivent être limitées au strict nécessaire, et ce alors même que on est en train de poser la question de laisser filer les déficits. On n'y comprend plus rien, ça fait vraiment désordre.
Alors, la Banque Centrale Européenne, effectivement, il y a eu un petit couac au niveau de la communication, mais on ne peut pas dire que la Banque Centrale Européenne ne fasse rien. Au contraire, c'est l'institution qui a fait le plus au niveau européen depuis le début de cette crise. Maintenant, il est vrai qu'au niveau des États, donc les gouvernements font tout ce qu'ils peuvent, ils suivent grosso modo les mêmes stratégies, qui est en fait de mettre leur économie un peu au frigo, en attendant que ça aille mieux, pour pouvoir ressortir ensuite les salariés, le capital, les infrastructures, et que ça redémarre. Mais on voit que le pays le plus touché, qui est l'Italie, est celui qui a, en fait, c'est le plan de soutien de l'économie le plus modéré. L'Allemagne, qui est beaucoup moins touchée, parce qu'elle a des finances publiques plus saines au départ, a pu faire un plan de relance, enfin, c'est pas de la relance au jour d'aujourd'hui, mais un plan de soutien, disons, beaucoup plus généreux que l'Italie.
Eh bien, évidemment, comme ce sujet est loin d'être épuisé, nous aurons l'occasion de nous retrouver pour de prochains débats de l'écho sur France Info avec le Cercle des économistes. Merci à tous les deux, Agnès Benassi-Kéré, Marc-Olivier Padis.